Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Pervers narcissique, c'est une expression qui connaît un grand retentissement quand elle apparaît dans les années 90. Au départ, c'est Paul-Claude Racamier, psychiatre et psychanalyste, qui en donne la définition suivante, une façon organisée de se défendre de toute douleur et contradiction interne et de les expulser pour les faire couver ailleurs tout en se survalorisant et tout cela aux dépens d'autrui. La description est un peu obscure, mais elle ouvre la voie à de nombreuses interprétations, affinements et autres critiques. Certains refusent de qualifier la perversion narcissique comme une pathologie mentale, mais évoquent plutôt une structure, une organisation de personnalité. D'autres psys vont jusqu'à dire que le pervers narcissique est une invention contemporaine destinée à masquer les travers de notre époque, au même titre qu'en son temps, l'hystérie féminine déguisait les frustrations sexuelles. La qualification de perversion sexuelle n'a d'ailleurs toujours pas de fondement juridique. Les victimes se servent de la notion de harcèlement moral pour exercer des poursuites. Mais dans le langage courant, le pervers narcissique devient rapidement très populaire, si on peut dire. Le concept permet au minimum de décrire toutes sortes de comportements toxiques émanant d'une personne ayant une faible capacité d'empathie associée à un comportement égocentrique et manipulateur. Les mots apaisent, permettent de parler, de partager, parfois d'agir. Poser des mots, comme on dit, c'est le début de la reconnaissance d'une souffrance. Tout de suite, donc, dans Les Pieds sur Terre, deux histoires qui présentent certains points communs, comme un air de famille, et que l'on pourrait décrire avec ces mots ou avec d'autres, harcèlement moral, emprise, perversion narcissique. À vous de choisir et de réfléchir aux ressemblances et aux différences entre l'histoire de Patrick et celle de Clémence, de récits de victimes incontestables. Contestable par Delphine Dilly.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Patrick, j'ai 53 ans. J'ai vécu une relation d'emprise pendant 10-11 ans avec une personne que j'avais rencontrée sur mon lieu professionnel. Elle était plus âgée que moi, donc chef d'entreprise. Et je la côtoyais régulièrement en tant que représentante des usagers du service public donc, que je dirigeais. Et elle avait des interventions régulières pour défendre les usagers qui étaient très pertinentes. Elle était très écoutée par toutes les personnes qui composaient les conseils d'administration, en fin de compte, des collectivités. Et à côté de cela, c'est une très belle femme qui était vraiment enviée par beaucoup de personnes aussi. Et à partir du moment où elle s'est intéressée à moi, c'est vrai que ça m'a... J'ai facilement succombé au charme, tout simplement, quoi. Et là, je me suis lancé et notre relation a démarré ainsi. Alors, le contexte de cette rencontre, en fin de compte, était très particulier pour moi, puisque je la rencontre à un moment où, dans mon activité professionnelle, je subissais un harcèlement que je vivais au jour le jour, de la part de certaines personnes sur mon lieu de travail. Vu l'état psychologique dans lequel j'étais, elle m'a émis l'idée de démissionner et de venir travailler avec elle, où je serais plus au calme, disait-elle, dans une ambiance familiale. C'est bête à dire, mais elle s'est présentée un peu comme un sauveur, finalement, de la situation que je vivais. Donc j'ai pris la décision de démissionner, tout simplement, de mon poste, et j'ai commencé à travailler avec elle. Et les choses ont rapidement changé. Donc au tout début, j'ai commencé à travailler avec elle, elle a commencé à se sentir malade. Parce qu'en fin de compte, elle m'a annoncé qu'elle attendait un enfant. Et donc elle a dû se faire encercler pour pouvoir mettre à terme sa grossesse. Et donc à ne plus être présent sur son lieu de travail. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à se compliquer. Alors, je ne posais vraiment pas de questions. Pour moi, c'était, il fallait l'aider absolument pour que notre enfant puisse naître dans les meilleures conditions possibles. Donc je ne voyais pas comme un sacrifice le fait de pouvoir travailler des heures et des heures. Donc juste après l'accouchement, son état de santé a commencé à se détériorer. Elle a passé tout un tas de séries d'examens pour tout un tas de maladies qu'elle prétendait avoir. Et les résultats des médecins n'étaient jamais consensuels. On n'arrivait jamais à un diagnostic, en fin de compte, où les médecins pouvaient s'entendre sur la maladie à traiter. Donc je ne pouvais pas la laisser tomber malade. Je l'ai donc supplé sur son lieu de travail, en essayant de prendre à moi la charge de travail qu'elle pouvait amener à son entreprise. Ça m'a abouti à faire des heures impossibles, hein, c'est-à-dire que j'arrivais à travailler à 4h du matin et je terminais à minuit avec une courte pause entre midi et deux pour pouvoir manger, me reposer un peu et repartir. Donc j'étais arrivé dans un cercle vicieux très rapidement, à être privé de sommeil, et le nez dans le guidon. J'arrivais à un stade où il me fallait dormir, ça devenait une nécessité, quoi. C'était, j'en pouvais plus. Mais une des particularités qu'elle avait, c'est justement, elle ne supportait pas me voir dormir. C'était un truc que je ne pouvais pas me reposer en sa présence. C'était impossible. Malgré ce peu de sommeil que j'avais, si jamais je dormais devant elle, elle me traitait de feignant. Elle disait parfois feignant sur un mode de plaisanterie. Mais c'était jamais une attaque directe. C'est-à-dire qu'il était difficile d'y répondre. Sur un ton anodin, elle me disait, mon chéri, là tu te reposes maintenant, mais regarde qu'à 15h tu dois être là-bas, en train de travailler, et si tu commences à dormir maintenant, tu pourras jamais être à l'heure. Bon, mais ça va aller, j'ai assez le temps, ça va bien. 5 minutes après, vous n'êtes pas endormi, mais elle vous dit, non mais attention mon chéri, tu vas être en retard. Et à ce moment-là, comme le repas est prêt, mais que vous préférez sauter le repas et vous reposer parce que vous n'en pouvez plus, elle vous rappelle, elle vous dit, mais hein, le repas est prêt, tu viens manger avec nous parce qu'on aimerait bien avoir ta présence à table. Elle avait le don de vous culpabiliser sans en avoir l'air. S'il m'est arrivé de l'envoyer balader, de lui dire, oh, mais laisse-moi tranquille maintenant, il faut que je me récupère. Si vous aviez une gueule monumentale pendant une semaine, et avec le reproche de toute la famille derrière, parce que la remontait tout le monde contre vous. Dans la même période, elle me demandait de participer aux tâches ménagères et elle me reprochait le fait de ne pas savoir passer la serpillière ou de ne pas savoir passer l'aspirateur pour enlever toutes les miettes qui tombaient par terre après le repas. Si je ne l'aidais pas aux tâches ménagères, c'était mal, mais si je passais l'aspirateur, c'était jamais comme elle voulait elle et c'était mal aussi. J'arrivais jamais à contenter le moindre de ses désirs. C'est ça qui est le problème en fait. C'est quoi qu'on fasse, on est piégé. Dans les compétences qu'elle pouvait avoir dans son travail, ce que je lui rapportais de ce que je faisais moi pour la suppléer, c'était jamais suffisant ou jamais correct. Même si l'équilibre comptable était calculé correctement, elle revenait dessus en me disant que j'avais pas posé la bonne opération, même si j'arrivais au bon résultat, quoi. C'était des petits détails sur lesquels elle appuyait tout le temps pour me reprocher que le travail n'était pas fait correctement. Mais c'est des reproches, des détails auxquels j'attachais pas d'importance. Je les attribuais plutôt à sa mauvaise humeur due au fait des problèmes de santé qu'elle avait. Et donc j'étais conciliant et je lui trouvais des excuses. Il est clair qu'une situation telle que celle-là, si je l'avais vécue avant de tomber dans cet engrenage, c'était très simple. Le conflit il se résolvait une fois que je réagis, quoi. Et c'était pas par la fuite. En tant qu'ancien adjuvant, c'était « tu me cherches, tu me trouves ». Et donc la situation perdure malheureusement plus d'une paire d'années. Et j'arrive à un stade où j'avais perdu tout sens de la vie. J'étais arrivé à un moment donné dans mes horaires où je faisais des livraisons de nuit. Donc quand le soir je roulais seul, je me disais, bon Dieu, pourvu qu'il t'arrive un accident et que tout s'arrête, quoi, que cette pression puisse terminer. Et on peut dire que la prise de conscience, je la dois à mon fils en fin de compte. Mon fils venait d'avoir 5 ans et demi. J'ai voulu le réprimander sur le fait qu'il en faisait qu'à sa tête et qu'il ne voulait pas manger de légumes. Et ça l'a mis dans une rage, une colère folle. Il a exprimé cette rage avec des mots que je ne pouvais pas admettre qu'ils puissent venir d'un enfant de 5 ans, en fait. Papa, de toute façon, tu n'as rien à me dire sur mon éducation, parce que tu n'es jamais à la maison, je ne te vois jamais, tu ne m'as jamais éduqué. 5 ans et demi, un gosse qui dit ça. Et à ce moment-là, je me suis tourné vers sa mère. Et à sa mère, j'ai vu la première expression qu'on appelle de joie maligne. C'est-à-dire qu'elle se réjouissait du fait que mon fils s'en prenne à moi. Et là, ça m'a marqué parce que j'ai dit, merde, là, il y a un truc pas normal. J'ai réfléchi à la situation et là, j'ai vu d'où commençait à venir le problème. Là, j'ai passé mes conditions. J'ai dit, voilà, il n'est plus question que je manque à mon fils. Il faut que mes heures de travail dans l'entreprise changent d'une manière ou d'une autre. Ou alors, j'arrête de travailler, je quitte le travail, je m'occupe de mon fils. Elle envisageait les choses totalement autrement et commet une tentative de suicide. Pour moi, c'est la période la pire que j'ai pu traverser de toutes parce qu'elle se sert de la tentative de suicide pour me culpabiliser, cette fois ouvertement, en m'annonçant que c'était à cause de moi. Mais quand j'essayais de creuser la question, de savoir, mais dis-moi ce que tu peux me reprocher comme attitude que j'ai pu avoir qui te permette d'aboutir à un acte aussi grave. Je n'avais jamais de réponse. Alors donc, je prends rendez-vous avec une psychologue spécialisée dans les couples. Et on fait plusieurs séances pendant 6 mois où on finit par convenir, en fin de compte, qu'on ne peut plus s'entendre en couple et qu'il nous faut prendre chacun de notre côté un avocat pour se séparer. Ce que je fais de mon côté, je la rencontre dans la foulée, en urgence. J'y raconte toute l'histoire et c'est là où elle me sort « Monsieur, vous avez été manipulé ». Là, je découvre vraiment qu'il y a tout un scénario qui tourne autour de cette tentative de ce suicide. Et là, je prends véritablement conscience. Je comprends tout, en fin de compte. Et c'est là où elle est arrivée à la manipulation, entre guillemets, ultime. Elle m'a dit, mais de toute façon, si on se sépare, je tue ton fils. Et elle m'a dit ça sur un ton d'une telle froideur. À ce moment-là, j'étais convaincu qu'elle était tout à fait capable de passer à l'acte. On s'est séparés, mais ça a été difficile parce que j'essayais toujours de ménager la chèvre et le chou pour ne pas réveiller le démon qui était en elle, quoi, en fait. On a eu 11 procès. Et sur ces 11 procès, finalement, j'en ai perdu 10 et j'en ai gagné qu'un seul. C'était celui de la garde de notre fils. Et j'ai perdu les 10 procès qui étaient des procès concernant des biens matériels sur lesquels, pour moi, je n'attachais aucune importance. Ça a été un immense soulagement.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Clémence, j'ai 36 ans, j'habite en région parisienne, j'ai 2 petites filles de 4 ans et 5 ans et demi, et donc j'ai vécu 5 ans avec un homme que je qualifierais de manipulateur, pervers, narcissique. Quand je l'ai rencontré, j'étais à mon compte, en fait j'avais ma société de service à la personne et de garde d'enfants et d'animation pour enfants. Ça faisait 6 ans que je l'avais créée et donc j'avais une 20aine d'employés avec une 100aine de clients réguliers et du coup j'étais quelqu'un d'hyperactif, j'arrêtais jamais, voilà. Et lui était infographiste dans une société. Alors, je l'ai rencontré, j'avais 30 ans, je l'ai rencontré dans un moment qui n'était pas facile pour moi parce que je venais de vivre une séparation et j'étais surtout enceinte d'un peu plus de 5 mois et donc je me retrouvais complètement seule et puis mon monde un petit peu s'écroulait parce que j'avais imaginé tout autre chose pour ma famille. Donc, je l'ai rencontré un petit peu à ce moment-là lors de mes vacances d'été. Il est venu discuter avec moi, on a très vite sympathisé et il était même assez entreprenant, assez dans la séduction et a tout de suite essayé de me valoriser, à me dire que je méritais de retrouver le bonheur, que forcément j'étais quelqu'un de bien, qu'il était sûr que je referais ma vie, qu'il fallait pas s'arrêter au fait que je sois enceinte, enfin vraiment, et c'est vrai que ça m'a interpellée en tout cas et puis il avait un regard très très persistant. Il avait un regard fort, vraiment très fort. Moi, j'habitais dans une autre région, vers les Alpes, et lui habitait en région parisienne. Et on a commencé une relation plutôt par téléphone, à apprendre à se connaître. Il me posait énormément de questions, il était très très attentif à tout ce que je faisais. Il m'appelait même sa Wonder Woman. J'étais, voilà, sa Wonder Woman. Je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, j'ai peut-être le droit à une deuxième chance. Et le fait que, voilà, je porte le bébé d'un autre n'empêchait pas de m'aimer non plus. Voilà, il disait que pour lui, ce n'était pas un problème. De toute façon, il avait envie de fonder une famille. C'était pour lui pas du tout un obstacle, en tout cas, à notre relation de couple. Je suis quand même restée, moi, dans ma région pendant un an. J'ai donc accouché toute seule. Et puis, je suis restée un an, mais je suis montée avec ma petite assez souvent, du coup, en région parisienne. Donc, quand j'ai accouché, après, il a accepté ma petite fille, voilà, un peu comme la sienne. Il la prenait vraiment sous son aile. Très vite, on a eu des projets de vie commune, d'acheter notamment une maison. Enfin, c'est lui, hein, tout de suite, qui a proposé. Et tout de suite, on a parlé d'enfants. Il a été très, très insistant. Et il me disait qu'il voulait pas perdre de temps. Puis il me disait que qu'évidemment, il allait se lever les nuits, qu'il m'aiderait, que comme il se lève à 5h du matin, le biberon de 5h, c'est toujours lui qui le donnerait. Puis bah voilà, il a réussi aussi à un petit peu à me persuader comme ça. Et puis donc j'ai arrêté la pilule et je suis tombée enceinte 15 jours après. Et du coup, bah tout s'est enchaîné en fait, on a emménagé notre maison, tout est allé très vite finalement. Alors, dans les premières choses qu'il a faites qui m'ont quand même fait tiquer un petit peu, il mentait assez souvent, alors mais sur des broutilles. Déjà, ça me perturbait quand même un peu parce qu'il mentait avec une aisance assez dingue, en me regardant droit dans les yeux, hein, et en me disant limite que j'étais folle, hein, que je me faisais des films, que c'était moi qui lui faisais pas confiance. Mais sur plein de choses, hein, sur la cigarette, il me disait qu'il avait arrêté alors que j'ai trouvé des paquets de cigarettes voilà, dans la cuisine et que un jour je suis rentrée plus tôt et que je l'ai vu en train de fumer. J'ai pas trop relevé, mais c'était un peu les premiers signes. Et puis après, il y a eu ces espèces de chaud-froid où en fait, quand il était au travail, tous les matins, j'avais droit à un message mielleux, amoureux au possible. Salut ma chérie, comment tu vas? J'espère que tu as bien dormi. Je t'embrasse, je pense fort à toi, plein de petits cœurs, passe une bonne journée. Et puis il rentrait du travail et là, il m'adressait pas la parole. Il était extrêmement froid, limite agressif, et donc je ne comprenais pas ce qui avait pu se passer entre le moment où il m'envoyait le message le matin et le moment où il rentrait du travail. C'était quelqu'un d'autre, quoi. Et en fait, il m'ignorait, ou alors il me disait « t'as qu'à réfléchir ». Et puis, je cogitais énormément, et ça fait un peu perdre la tête, en fait. On se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et tous les matins, le lendemain, du coup, j'avais à nouveau un gentil petit message. C'est lors de ma grossesse là que les choses ont un petit peu dégénéré. Il a commencé à de plus en plus mal me parler, plus sous un ton agressif. Il commençait à me dire que c'est bon, hein, j'étais que enceinte, hein, que j'étais pas malade, donc que je pouvais m'activer un petit peu plus, que je pouvais faire le ménage, que il fallait que je nettoie tous les jours la maison, qu'il fallait que j'aille l'aider à faire les travaux. Quoi que je fasse, ça n'allait jamais en fait. C'était jamais assez bien, c'était jamais assez pour lui. Il rabaissait quand même très souvent en disant que j'étais nulle, que j'étais une mauvaise mère, que de toute façon tout ce que je faisais c'était mal, que j'avais aucune culture. Enfin bon, c'était tout le temps dans le mépris. Mais ce qui était perturbant aussi, c'était que donc à l'extérieur, il était formidable. Donc on voyait très peu, hein, quand même sa famille et ses amis, on les voyait pas souvent. Les miens non plus, d'ailleurs. Ils m'isolaient quand même beaucoup dès le départ. Mais le peu où on les voyait, ils se montraient comme un mari, un papa extraordinaire. C'était les seules fois où il changeait la couche, c'était les seules fois où il mettait la table, c'était quelqu'un d'autre. Il était extrêmement gentil, il était extrêmement attentionné, même avec moi, devant les autres. En rentrant dans la voiture, il m'insultait, il me disait que j'avais soit été trop gentil même avec ses amis, ça j'avais souvent le droit à cette réflexion, franchement, t'étais déplacée, t'as beaucoup trop rigolé avec mes copains, tu les draguais ou quoi, qu'est-ce que t'attends de mes amis Mais finalement, à la fin, j'en venais à plus oser parler, à plus oser rigoler avec ses amis, à plus oser trop m'intégrer. Le problème, c'est qu'à la fin, c'est vous qui passez pour la fille asociale ou la fille qui savait pas me détendre, qui savait pas m'amuser. Tout était de toute façon retourné contre moi. Mais bon, j'allais quasiment accoucher, donc c'était très compliqué dans ma tête de me dire bon là on va envisager une rupture, c'était d'ailleurs inenvisageable. On arrive à minimiser toutes les violences parce qu'à côté de ça, il va nous dire qu'il nous aime, qu'il a encore des projets, qu'il a envie de voyager, de faire plein de choses et qui finalement n'arrive jamais. Hein, mais en tout cas, voilà, il continue quand même malgré tout, face aux gens d'être gentil. Donc, on arrive à se dire que c'est encore possible qu'il revienne comme il était avant. Et puis j'ai accouché, et lors de mon accouchement, là ça a été très compliqué parce qu'il m'a dénigrée même pendant l'accouchement à me filmer déjà alors que je refusais d'être filmée. Et à la fin, il m'a même dit « tu m'as fait honte, c'était inadmissible que tu cries comme ça ». Et le côté aussi encore plus, rabaissant, c'est qu'après, il a montré la vidéo à sa famille et à ses amis en disant « Regardez, la chochotte, elle arrêtait pas de me faire honte, elle criait, alors que franchement, c'est quand même pas sorcier. » Alors en fait, ce qui est très difficile aussi, c'est qu'il m'empêchait de dormir déjà. Donc d'une part, il s'est jamais levé pour les biberons de 5 heures comme il m'avait promis au départ, hein. C'est vite tombé à l'eau. Donc je devais me lever évidemment 3 ou 4 fois par nuit pour la petite, plus 3 ou 4 fois par nuit pour la grande. Donc au final, j'arrivais à dormir à peine une heure ou deux, et ça a été ça pendant 3 ans parce que mes filles n'ont jamais fait leur nuit en fait tant que j'habitais là-bas. Et donc il y avait le fait qu'il me réveillait quand il allait au travail et qu'en plus ça le faisait rire et il me disait mais de toute façon t'es en congé parental donc tu peux te rendormir, c'est pas grave. Et il me forçait à me lever, hein. J'avais pas le choix, fallait que je me réveille. Donc il m'empêchait de me reposer même la journée, il me demandait tout le temps de faire des tâches supplémentaires dès que j'avais un petit moment de répit. Moi du coup j'avais perdu 18 kilos la dernière année tellement j'étais épuisée et j'arrivais plus. Pourtant même en mangeant, je mangeais normalement et je continuais à perdre du poids parce que les violences sont si fortes qu'elles atteignent notre physique. Et donc cet épuisement physique nous empêche en fait après d'avoir la force aussi de partir parce que il faut de la force aussi physique pour partir. Et il y a eu le moment de trop où il m'a humiliée avec ses parents et c'était mis à quatre contre moi. Il m'avait parlé extrêmement mal. Et là, sa façon de me regarder avait été en plus très, très agressive. Et j'avais vu dans ce regard, un regard mais noir, extrêmement haineux. Et là, je m'étais dit vraiment qu'il ne me considérait plus du tout comme une femme. Enfin, c'était plus possible. Et là, dans ma tête, le cheminement a commencé à se faire de la rupture, mais je ne savais pas par quel bout commencer. Je ne savais pas du tout comment faire. J'étais complètement perdue et j'ai eu la mauvaise idée de le prévenir que j'allais partir. Et alors là, ça a été un autre début d'enfer, on va dire, où là, il m'a espionné, il s'est mis à aller même cacher sa voiture, à faire semblant d'aller travailler, alors qu'en fait, il se cachait dans la maison pour m'espionner. Il avait mis des micros dans toute ma maison, dans ma voiture également. Et en fait, il avait tout anticipé, lui, il avait absolument un train d'avance sur tout. Moi, je pensais tenter de faire les choses de façon plutôt cachée parce que je sentais bien quand même qu'il allait pas me faciliter les choses. Et en fait, lui était au courant de tout depuis le départ, toutes les démarches que je faisais pour essayer de trouver un logement, pour essayer de me reconstruire aussi avec la psychologue. Il avait piraté mes mails, il avait absolument un train d'avance sur tout, mais tout ça, je l'ai su après être partie. En fait, un jour, il jubilait, il m'a dit « Mais ma pauvre, si tu savais depuis combien de temps je t'enregistre et je t'écoute et je sais absolument tout », il m'a dit « Mais t'es perdu d'avance ». En fait, il provoquait tous les conflits pour m'enregistrer et pour essayer de me faire passer pour quelqu'un déséquilibré parce que il me provoquait tellement qu'il me faisait des fois crier. Alors oui, à un moment donné où je pense qu'on est à la limite de la folie parce que ça rend dingue, mais il essayait de s'en servir contre moi après pour faire perdre ma crédibilité. Premièrement, il m'a dit « De toute façon, je te ferai tout perdre, que ce soit la garde plus la maison, tu récupéreras absolument rien ». Et il a été, alors là, de plus en plus violent et agressif. Et là, il s'amusait toutes les nuits à m'allumer la lumière, à m'éteindre, à m'allumer, à éteindre la lumière en permanence pour me réveiller et puis pour me rendre folle aussi, hein, parce que clairement, ça rend fou, à claquer les portes 50 fois par heure. Voilà. Il s'amusait à me taper juste à côté de la tête ou juste devant mon nez en me disant « Ah, t'aimerais bien que je te tape, hein, là, parce que comme ça, t'aurais une preuve, là, hein, c'est sûr. » Et il savait pertinemment hein, que bah, la violence psychologique, elle est difficile à prouver. En fait, la psychologue que je voyais, ça faisait donc 2 mois que je la voyais, elle m'a conseillé là, d'aller voir une association de victimes donc, de violences conjugales. Donc j'y suis allée un jour sans rendez-vous, j'étais à bout de force. Très clairement, je me sentais même mourir en fait, enfin, ça paraît dur, mais et j'ai débarqué dans cette association et là, la psychologue de l'association m'a dit « Mais si vous vivez des violences, ça a beau être des violences psychologiques, ce sont des réelles violences et le seul moyen, c'est de tout mettre en œuvre au plus vite là, pour plus vivre avec lui. » Donc elle m'a dit d'aller porter plainte aussi, donc j'ai porté plainte pour harcèlement moral pour au final avoir une plainte classée sans suite pour insuffisance de preuves. Voilà. Alors, il a tout fait pour avoir la garde de notre fille. Il a évidemment fait faire des fausses attestations par sa famille et par ses amis qui ont dit que ça a toujours été un père formidable, qui s'est toujours occupé de tout, que moi, à l'encontre de ça, j'étais au contraire violente, agressive, folle, voilà. Enfin, mais au final, la juge n'a pas été dupe là-dessus. Donc, oui. J'ai la garde. Il a le droit classique, dirons-nous, un week-end sur deux, la moitié des vacances. À côté de ça, il a fallu se reconstruire. Ça a été extrêmement dur les premiers mois. Ça paraît bête, mais je savais plus rien faire. J'arrivais plus à rien. Je n'arrivais même plus à faire à manger. J'arrivais plus à faire mes courses, à écrire, enfin à lire. Tout était extrêmement compliqué. J'ai l'impression qu'il a fallu que je réapprenne tout, tellement il avait fait perdre toute l'estime de moi que j'avais en fait. Le fait aussi de la reconstruction qui est difficile, c'est que ce soit mes filles ou moi d'ailleurs, on fait des cauchemars toutes les nuits. Mes filles me disent encore qu'elles rêvent qu'il me tue, hein, donc enfin c'est pas anodin. Et moi, je rêve de lui toutes les nuits. Je n'arrive pas à me l'enlever de l'esprit. Je panique encore quand je vois une voiture qui lui ressemble dans la rue. Voilà, même un an après, il y a encore des traces qui restent et qui font que c'est une bataille au quotidien, en fait, de s'en sortir. C'est beaucoup, beaucoup de temps pour se reconstruire et pour arriver à refaire confiance dans les gens, pour arriver à retrouver même ma joie de vivre que j'avais avant de le rencontrer.
Wakey, wakey, arise and shine, it's on again, off again, on again. Watch me fall like dominoes in pretty patterns, fingers in the blackbird pie. Tingling, 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 it's what you feel, not what you are to, what you are to. Reasonable and sensible, dead from the neck up. Get some stuff, stuff, stuff. We thought you had it in you, but not.
C'était des pervers narcissiques, deux histoires avec un air de famille. Un reportage de Delphine Dilly réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Patrick et à Clémence, à Marie, à Pascal, à Roland et à Calypso. C'est Mélissa Fous, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Lorenzo Cucchiaro, notre stagiaire.